Nutrition Finance, Howard et Salaire Étudiant. Quelles sont les réalités derrière ces différentes approches des revenus étudiants? On va travailler sur la question. Bonjour. On va parler un peu de la question générale de. Enfin, à partir du constat de la précarité étudiante, quels moyens pour en sortir et quels revenus pour les étudiants quoi. Voilà, voilà. Donc, comme je disais, derrière ce titre à rallonge et multilingue, se cachent plusieurs questions complexes auxquelles on va tenter de répondre dans cette intro et dans le débat qui va suivre. Car en effet, parler de revenus étudiants soulève de nombreuses contradictions, qui peuvent toutes être appréhendées de selon différentes approches. On peut nier l'urgence de la question, comme Laurent Wauquiez le faisait en 2011, quand il demandait qu'on lui explique que la précarité étudiante existe. Alors manifestement, ce monsieur Wauquiez avait un emploi du temps trop chargé qui l'empêchait de prendre 5 minutes pour trouver les chiffres publiés par l'Observatoire de la vie étudiante. C'est-à-dire 75% des étudiants qui sont salariés au cours d'une année universitaire pour faire face aux dépenses courantes, et un étudiant sur deux qui occupe un emploi en plus de son temps d'études. Gardons à l'esprit que dans ces chiffres, ça compte que les salariés qui ont un contrat de travail. On ne compte pas ici ni les étudiants qui travaillent au noir, ni les quelques milliers d'étudiants qui se prostituent pour survivre. Donc face à ces chiffres, M. Wauquiez pouvait toujours expliquer que ces emplois et ces combines avaient pour but de financer les à côté. Malheureusement, encore une fois, l'outil statistique montre une réalité totalement différente. 26% des étudiants déclarent rencontrer de réelles difficultés pour faire face aux dépenses courantes, 20% renoncent aux soins. Le constat est assez simple. La moitié des étudiants vit avec moins de 400 euros par mois. Sur 2 millions d'étudiants, 225 000 sont en très grande difficulté financière. Et si on peut appréhender ça sur une base, il n'y a pas de précarité étudiante qu'il faut, on peut aussi appréhender ça sous un autre pendant. On peut également avoir une âme charitable et penser à donner un petit peu de sous aux étudiants qui sont aussi cabotins le jeudi soir dans les bars. Mais encore une fois, ce n'est pas une approche satisfaisante de la question. On peut certes donner de l'argent aux étudiants pour qu'ils choisissent de les dépenser dans les restaurants et résidences privées qui ont fleuri autour des universités. Et il est bon ton de le signaler que ces résidences privées et ces restos privés ont augmenté proportionnellement à l'augmentation du prix du resto U et à la disparition des cités U du Crous. Sur ces questions d'argent simplement dépensé, il y a l'exemple de l'APL qui est assez clair. L'APL a eu une conséquence immédiate. L'augmentation des loyers privés s'est faite dans la même mesure que le don d'argent de l'APL. Ainsi, le bénéfice social de cette mesure a été quasiment nul, si ce n'est totalement nul. Salut. Donc, face à ça, il se pose une première question, celle du service public. Donner aux étudiants les moyens de bien étudier, c'est leur assurer les moyens de vivre, et pas simplement leur donner une somme X, qui finira peut-être, avec beaucoup de chance, dans les caisses du Crous public, qui a été rendu petit à petit moins intéressant que le secteur privé, à grand coup d'augmentation de tarifs du ticket U et de destruction de cité U. Alors, s'il faut assurer aux étudiants les moyens de bien étudier, une autre interrogation se pose quand on affirme ça. Pourquoi assurer les moyens de bien étudier? S'il s'agit simplement de faire plaisir à 2,2 millions de personnes de moins de 30 ans, ça n'a pas de sens, c'est pas une question digne de se poser. Alors, évidemment, puisqu'elle est posée dans le cadre de l'université d'été du PCF, c'est une question qui mérite quand même réflexion. Pour bien saisir les contours, on va commencer en utilisant un des rares outils sociaux qui ne bouge pas pendant au moins un an, un dictionnaire. Alors, la question c'est quel lien j'ai pu faire pour arriver sur un dictionnaire en partant des besoins étudiants. Eh bien, c'est simple. On va utiliser deux notions. On va s'arrêter premièrement au mot éducation, considérant que la définition du mot, c'est le sens socialement acquis du mot, et au mot enseignement. Donc par éducation, on entend l'action de guider hors, c'est-à-dire développer et faire produire. Ce terme signifie plus couramment l'apprentissage et le développement des facultés physiques, psychiques et intellectuelles, en gros les moyens et les résultats de cette activité de développement. Définition d'éducation, définition d'enseignement. Pratique mise en œuvre par un enseignant visant à transmettre les connaissances, savoir, savoir-faire, compétences à un élève. Donc, que tirer de ces deux définitions? Parce que, bon, en vrai, c'est juste une transition, elles ne sont pas importantes en tant que telles. Bah, tout d'abord, une évidence. L'enseignement, tant primaire que secondaire, que supérieur, a pour but de transmettre les connaissances et de permettre les activités de développement. Je prends ce premier constat socialement, anthropologiquement. L'enseignement a donc pour but de transmettre l'ensemble des codes, des ressorts sociaux qui permettent à chacun de vivre ensemble. Il tient le rôle de vecteur socialisant entre chacun, entre chaque futur citoyen, dans le cas du primaire évidemment. L'enseignement vise également à transmettre le savoir à chacun. Il s'agit ici de permettre la transmission des savoirs forgés par l'homme tout au long de son histoire, ce qu'on appelle la culture. Mais depuis que l'humanité existe, et que l'humanité est humanité, c'est-à-dire une forme de société organisée collectivement, une nouvelle variable est entrée en compte. La production de nourriture, d'outils, d'objets, d'objets culturels, et ainsi de suite. Et comme vous pouvez le voir dans les définitions, l'enseignement vise également à transmettre les savoir-faire, les moyens de faire produire. Dès la primaire, quand on apprend à lire, à écrire, à compter, ce n'est pas seulement pour le savoir, ni pour savoir en tant que tel, mais pour utiliser ce savoir afin de produire, d'améliorer l'environnement de vie des hommes. Compter son troupeau de moutons au XIIe siècle permet de s'assurer qu'on a assez de viande pour le village. Calculer la densité d'habitants dans un quartier permet au XXIe siècle de calibrer une politique d'urbanisme, ou permet encore de calculer le nombre de barres de carbone inerte nécessaires pour ralentir une réaction nucléaire, et permettant ainsi de calibrer la puissance d'un réacteur. Ainsi, les savoirs et les savoir-faire ont une place fondamentale dans la production dans son sens généralement accepté, c'est-à-dire l'économie. Et donc, autre question, où ces savoirs, ces savoir-faire sont-ils transmis? Où s'assure-t-on que les nouvelles générations les maîtrisent afin de répondre aux enjeux productifs de demain? Bien, la réponse est assez simple, c'est au sein de l'enseignement supérieur, au sein de l'enseignement général, et dans le cas qui nous intéresse, au sein de l'enseignement supérieur. Alors à cette lumière, bien former les jeunes gens porte un sens bien plus sérieux, bien plus important. Il ne s'agit donc pas de donner à des jeunes de l'argent pour qu'ils s'amusent, il ne s'agit donc pas de donner de l'argent à des étudiants pour qu'ils dissertent de Platon en buvant des cafés, mais il s'agit bien d'assurer les conditions optimales aux étudiants afin qu'ils réussissent leurs études. Et c'est dans cette mesure que se pose la question du revenu étudiant. Les chiffres sont là, on les a rappelés au début. Un étudiant sur deux se salarie, un étudiant sur deux rate sa première année. C'est donc un étudiant sur deux qui ne pourra pas calculer le nombre de barres de carbone nécessaires pour arrêter une réaction nucléaire qui s'emballe. Ainsi, il semble important de se pencher sur la question du revenu étudiant. Les étudiants sont un besoin pour la société, non pas seulement dans une dimension culturelle ou dans une dimension simplement de partage des savoirs, mais bien dans une dimension productive au sens strict. Et on a vu précédemment que la situation économique et sociale du milieu étudiant empêche les étudiants justement d'être pleinement des étudiants. Et c'est ainsi que revient le titre, Student Finance, Award et Salaire étudiant. Alors qu'est-ce que c'est donc? Que sont ces trois mots barbares et quel concept recouvre-t-il? Alors, ces trois approches, c'est les trois principales formes socialisées, prises en charge socialement, de revenus étudiants. Donc tous les trois systèmes garantissent le subventionnement complet des frais à la charge des étudiants. Mais pourquoi faut-il un subventionnement complet des charges des étudiants? Par charge des étudiants, on entend les coûts de vie, les coûts d'inscription, les coûts de logement et ainsi de suite. Alors, pour répondre un peu finement à ça, il faut déjà commencer par se demander pourquoi un étudiant est un étudiant. Et depuis les années 60, l'enseignement supérieur est en constante massification. Et la massification de l'université ne s'est pas faite afin que les jeunes gens aient accès au savoir et à la culture des nantis, mais tout simplement parce qu'il y avait nécessité objective de former plus de monde. Donc si je dis nécessité objective, peut-être explicité. Quelle nécessité objective? C'est bien simple. Certains qui retiennent les années 60 comme l'émergence de la société de consommation, mais ils oublient qu'avant de consommer, il faut produire. Donc c'est à partir des années 50 que la production se complexifie, que les procédés deviennent de plus en plus techniques grâce au progrès. Gorgée de café. Par exemple, il n'y a plus besoin de 15 manœuvres pour fabriquer une 2 chevaux, mais de plusieurs robots pour produire une C4. Et pour programmer, manipuler une machine complexe, il faut une meilleure formation initiale. Là où auparavant il fallait 50 conducteurs de métro pour faire fonctionner une ligne de métro parisien, il ne faut maintenant plus qu'une poignée de techniciens pour gérer les lignes automatisées. Ainsi, pour répondre aux nouveaux besoins de la production, c'est-à-dire pour répondre aux besoins de la société de la façon la plus efficace, il faut du personnel mieux formé. Ce n'est pas une affirmation en l'air. Le bon sens populaire a suivi ce progrès. Dans les années 50, on disait « passe ton certif d'abord ». C'est devenu lentement « passe ton bac d'abord ». Et maintenant, dans les années 2010, on parle d'amener un étudiant sur deux au niveau licence, soit bac plus 3. Et c'est tout le sens de la perception du diplôme comme rempart anti-chômage. Même si on sait que maintenant ça devient lentement erroné et que le diplôme n'est pas un facteur protecteur. Un diplôme veut dire des études plus approfondies, une formation plus longue, plus de savoir et de savoir-faire qui vont être utiles à terme à la production et à l'économie. Ainsi, pourquoi un étudiant va faire des études? Bien, pour avoir un diplôme, et bien évidemment, mais ce diplôme n'est pas une fin en soi. On n'a pas un diplôme pour l'accrocher au mur et parader devant les copains. Un diplôme, c'est que l'objet qui marque un ensemble de compétences, entre guillemets, compétences évidemment, qui vont servir à faire tourner l'économie, à faire avancer le pays. Ainsi, chaque étudiant qui va à l'université aspire à un diplôme, à un bon emploi, car sa formation est censée lui permettre d'accéder à cet emploi, lui permettre de travailler mieux et d'être plus efficace dans son travail. Un licencié en informatique est évidemment plus efficace qu'un kidam qui touche à un ordinateur. Ainsi, la formation permet à un étudiant d'acquérir les gestes, les techniques qui permettront d'être plus efficace dans la production, dans l'activité qui permet à la société, d'avancer. Ainsi, il est faux de dire que les étudiants font leurs humanités pendant quelques années, qu'ils vont à la fac pour se distraire, pour apprendre Platon et Socrate. Mais il est faux de dire qu'ils vont faire leurs humanités pendant quelques années avant d'entrer dans le monde du travail. Ce qu'ils font pendant leurs années d'études leur permet d'être des pierres angulaires de leur travail. Ils apprennent les techniques, les gestes d'encadrement, de gestion. Bref, tout ce qui est nécessaire pour être pour produire aujourd'hui et pour, surtout pour bien produire aujourd'hui. Pour reprendre l'exemple du carbone inerte, il faut effectivement une formation d'ingénieur nucléaire. C'est une formation longue, complexe, que n'exigeait pas celle d'un employé communal. Alors attention, il ne s'agit pas de hiérarchiser au prix des métiers qui ont trouvé une place indispensable dans l'organisation sociale. Il s'agit de montrer qu'il y a une évolution et une différence dans la formation initiale exigée. L'une est plus longue, plus complexe, plus exigeante que l'autre. Il en va de même pour les médecins urgentistes qui doivent suivre une formation plus longue qu'un chauffagiste pour exercer leur métier. C'est précisément ces métiers qui demandent des formations complexes, exigeantes, qui se sont développées récemment, en tout cas depuis les années 60. Si les étudiants vont à l'université pour se former, se rendre utile, se mettre individuellement au niveau exigé par la production, il y a un enjeu social beaucoup plus fort. L'université, ce n'est pas uniquement un lieu de formation initiale, c'est également le lieu et pas le lien, le lieu où l'on cherche, où l'on découvre, où l'on transmet les savoirs indispensables. Si l'université permet de se former pour se mettre au niveau des exigences d'animation de la production, permet également d'optimiser, d'améliorer ce niveau. Ce sont les chercheurs et leurs travaux qui permettent le progrès technologique. Et ce progrès a une influence à terme sur la productivité, ce qui veut dire concrètement l'efficacité au travail. Et sans paraphraser un ministre communiste du travail, c'est en libérant les étudiants des angoisses du lendemain qu'on leur permettra d'étudier, d'acquérir les savoir-faire exigés pour le fonctionnement de l'économie, de la société. Tout comme on permettra à un maximum de jeunes gens de potentiellement contribuer aux recherches scientifiques qui répondront aux enjeux de demain sans avoir accumulé les emplois précaires. En dehors de ces deux questions de formation et de recherche qu'il faut assurer, il y a également un fort enjeu d'égalité républicaine. 73% des étudiants dépendent des solidarités familiales. Ces solidarités familiales ne sont pas comparables selon les situations. Pour assurer une situation juste et équitable à chaque étudiant qui entre en première année, il faut sortir de cette dépendance de 3 étudiants sur 4. Et c'est donc bien en se débarrassant des incertitudes, en se débarrassant de ces 73% d'étudiants qui dépendent financièrement de leur famille, du jonglage permanent entre études et emploi de survie, qu'on fera de l'échec d'un étudiant sur deux un constat du passé. Et pour cela, il faut donc assurer le subventionnement complet des charges des étudiants. Ainsi, pour que chacun ait une chance de réussir, chacun a une chance de bien étudier, pour bien travailler et pour être utile à la société présente et future, il faut impérativement prendre en charge socialement l'intégralité des coûts étudiants. Mais s'il faut assurer à chaque étudiant les moyens de bien étudier, encore une fois pour répondre efficacement aux enjeux économiques et sociaux, s'il faut effectivement assurer le subventionnement complet des charges pour permettre à chacun de réussir sa formation, il faut encore réfléchir un peu finement à la méthode. Revenons encore une fois au titre de l'intervention, Student Finance, Award et Salaire étudiant, et penchons-nous un peu concrètement sur ces trois systèmes, leurs tenants, leurs aboutissants et leurs efficacités relatives. Donc, à titre de comparaison et pour faire un peu un retour dessus, on va commencer par une présentation du système français actuel qui sera faite par ma camarade ici présente.
Ouais. Donc du coup, à l'heure actuelle, dans la quasi-totalité des enseignements supérieurs, des établissements d'enseignement supérieur en France, il n'existe pas de système de subventionnement complet des charges étudiantes en France. Donc, depuis la création des universités, se sont développées des bourses étudiantes afin de subvenir tout du moins en partie à ces besoins des étudiants. Donc outre les revenus, il y a eu aussi donc le développement de logements, de traits de matériel, qui à différentes époques ont aussi permis aux étudiants de se former avec l'assistance matérielle nécessaire. Bien évidemment, depuis lors, ces mécanismes de financement des études ont évolué, mais nous nous intéresserons ici qu'à la part concernant les revenus, puisque donc, du coup, tous les autres aides à côté ne sont pas le sujet sur lequel on parle actuellement. Donc, si les bourses d'études existent depuis le XIIIe siècle, nous limiterons, pour des questions de temps et un peu logique, à la seconde moitié du XXe siècle. L'après-guerre voit apparaître la revendication du salaire étudiant en France. L'augmentation des besoins de formation pour répondre à l'évolution des modes de production a vu, comme nous l'avons dit précédemment, se mettre en place la nécessité de démocratisation de l'enseignement supérieur. C'est dans ce contexte politique d'après-guerre qu'apparaît également la définition de l'étudiant comme un travailleur avec le tournant syndical de l'UNEF et aussi donc l'apparition de la charte de Grenoble. Évidemment, l'affirmation de la place de l'étudiant comme travailleur va de pair avec la revendication des salaires étudiants. Nombre de débats et de propositions de loi sont allés dans ce sens pendant la IVe République, mais les divisions qui pouvaient exister sur les modes de financement de ces salaires, les réticences ministérielles et l'instabilité politique de l'époque n'ont pas permis de mettre en place une telle mesure. Donc, de fait et depuis lors, le système de bourse s'est perpétué. C'est sous la volonté d'aider les étudiants capables de suivre des études supérieures, mais dont la situation financière des parents ne permettait pas de subvenir à leurs besoins, que se sont développées les bourses. Cette vision originelle liait à la fois le caractère académique de l'étudiant et la dépendance familiale. Avec la démocratisation de l'enseignement supérieur, c'est ce deuxième aspect qui a pris l'ascendant, considérant que l'enseignement supérieur, c'est un passage normal de la vie, et ancrant les bourses comme une aide aux plus démunis. Bon, l'aspect académique existe encore aujourd'hui sous l'égide de la méritocratie, avec les bourses au mérite accordées aux plus méritants. Au fil des décennies, l'augmentation du nombre d'étudiants s'est accompagnée logiquement avec une augmentation du nombre de boursiers. Si l'objectif c'est d'amener les étudiants issus des classes plus populaires à l'université, forcément il faut fournir des aides. Donc la démocratisation a ainsi posé la problématique de passer d'un système de financement d'une minorité d'étudiants avant à aujourd'hui à une frange beaucoup plus large de la population. Le système de bourse sur critères sociaux octroie ainsi un revenu étudiant sur les bases des revenus familiaux. Pour avoir les bourses sur critères sociaux, donc on fait une demande sur le CROUS, etc. Et donc c'est sur les revenus des parents, et en fonction des revenus des parents, que cette aide est accordée. Donc cette vision de dépendance familiale des étudiants et d'aide aux plus démunis fait qu'à l'heure actuelle, ce système laisse une bonne partie d'une classe d'âge et ne fait pas du système de bourse un système universel. Il faut reposer et il fait reposer donc aussi la politique de socialisation des financements étudiants sur une socialisation entre les familles, par un prélèvement par l'impôt pour redistribuer aux plus nécessiteux. Donc, l'enseignement supérieur n'est pas homogène à l'heure actuelle. Il existe donc différentes structures, les universités, les grandes écoles, les IUT. Donc du coup, cette multitude d'établissements supérieurs ont aussi des statuts différents. Ainsi, même si à l'université, les frais d'inscription sont relativement faibles par rapport à d'autres pays, ce n'est pas le cas de tous les établissements, et les politiques actuelles de privatisation et dérégulation de l'enseignement supérieur augmentent aussi ces inégalités d'accès aux établissements d'enseignement supérieur. Par exemple, aujourd'hui, à peine plus de 10% des étudiants à l'université sont issus de parents ouvriers, c'est 16% aussi qui sont issus de familles employées. Donc l'accès à l'enseignement supérieur n'est pas le même pour tous, et ça maintient aujourd'hui un système de sélection et de reproduction sociale. Il existe aussi de nombreux établissements ne dépendant pas du ministère de l'enseignement supérieur, mais d'autres ministères. Les dispositifs d'aide financière aux étudiants ne sont ainsi pas les mêmes entre les ministères. De plus, les transferts de compétences vers les régions se voient développer des bourses régionales spécifiques, mais il existe aussi des bourses départementales ou même des bourses communales. Les systèmes d'aide directe recoupe à l'heure actuelle plusieurs centaines d'aides différentes aux étudiants, provoquant un système qui, en plus d'être illisible, est clairement inégalitaire. Si on n'a pas le même droit aux bourses en fonction de la ville où on vient ou le même département, voilà. Ça pose des questions sur le fonctionnement. Donc, le cumul des bourses sur critères sociaux avec les politiques familiales d'exonération fiscale, qui est aussi l'un des principaux postes de dépenses aujourd'hui en France sur l'aide aux étudiants, c'est l'exonération fiscale pour les parents donc, qui ont des enfants dans l'établissement supérieur. Donc cette politique d'exonération fiscale bénéficie donc aux familles les plus pauvres, mais aussi surtout aux plus riches. Ce qui met aussi donc, du coup, une bonne partie des étudiants entre les deux points, sur le côté des systèmes d'aide sociale. Bon, de plus, le montant des bourses sur critères sociaux, qui est au maximum à un peu plus de 460 € à l'heure actuelle, pour un échelon 6, ne suffit pas à financer le coût des études. 3 étudiants sur 4 se salarient pendant les études, et 1 étudiant sur 2 cumule emploi et études tout au long de l'année. l'importance du salarié à l'étudiant, que je donnais en chiffres, reflète qu'il y a bel et bien un problème et une insuffisance des dispositifs existants. De plus, le salariat n'est pas une solution pour financer les études, puisque c'est la première cause d'échec à l'université. Un étudiant sur deux abandonne ses études, car elles ne sont pas cumulables avec son travail à côté. Donc, face à l'ensemble de ces problèmes, d'autres solutions existent. Nombre d'acteurs de la classe dominante font l'éloge des systèmes existants à l'étranger, des systèmes de prêts généralisés, provoquant l'endettement des étudiants avant même la fin de leurs études. Donc, les premières bases de ce système ont été mises en place en France par Valérie Pécresse avec la création d'un prêt étudiant à taux zéro. Malgré les baisses budgétaires dans les œuvres universitaires, ce système, pour l'instant, reste marginal en France. Le développement de l'idée de la fin de la gratuité de l'enseignement supérieur et la volonté qu'on entend beaucoup aujourd'hui d'augmenter les frais d'inscription tendent aussi à universaliser ce système de prêt. En augmentant les dépenses nécessaires à un étudiant, on augmente aussi sa nécessité d'avoir des revenus plus importants. Donc nous allons maintenant nous intéresser donc au système anglais et aux évolutions qui ont permis à l'heure actuelle l'universalisation des prêts étudiants en Angleterre. Donc sur ce côté-là, je vais laisser la parole à Nicolas Malek.
Ouais. Alors le système anglais, ils peuvent se résumer par deux formes générales que sont le World et le Student Finance. Et c'est dans la deuxième partie sur Student Finance qu'on commencera à parler des prêts. Un peu, enfin, on va au moins produire la question des prêts, on pourra en débattre plus largement après. Donc, les deux systèmes, Howard et Student Finance, se sont succédés et portent tous deux des contradictions intéressantes à soulever. Donc, on va s'y pencher chronologiquement afin de bien les appréhender, de saisir les tenants et les aboutissants de chacun. Donc, Howard, premièrement. La politique anglaise, elle a connu un fort moment avec la mise en œuvre en 1962 du régime des Mandatory Awards. Elle consistait dans le subventionnant étatisé de l'ensemble des frais d'études et de vie courante auxquels les étudiants à temps plein avaient à faire face. Donc, elle fut toutefois associée, dès ses origines, à une contribution complémentaire à la charge des parents de l'étudiant. C'était les Parental Contributions, formellement obligatoires et qui étaient progressives à partir d'un seuil minimal de revenus déclarés. La condition de ressources introduite à partir de ce seuil réduisait ainsi les montants maximaux de subventions étatisées, subventions qu'il était prévu de verser aux étudiants. Les fameux Mandatory Awards s'inscrivaient dans une dynamique générale de socialisation, du financement et d'expansion de l'enseignement supérieur. Et ainsi, jusqu'à l'arrivée des conservateurs en 1979, les ressources du secteur, c'est-à-dire de l'enseignement et des étudiants, ont été largement financées par les autorités publiques, gouvernementales et locales. Si l'établissement avait formellement toute liberté et toute latitude dans la fixation des frais d'inscription, ces frais étaient très largement subventionnés dans le cadre des Mandatory Awards. Il y avait deux types d'awards, celui pour l'inscription et celui pour les coûts de vie. Alors, les subventions publiques distribuées aux étudiants et aux établissements universitaires ont connu une croissance relativement régulière jusqu'aux années 80. Cette politique générale de financement était par ailleurs portée dans les institutions, par des institutions et des acteurs spécifiques au nom de conception de l'enseignement supérieur qui s'était affirmée dès l'après-guerre. Ces idées étaient portées dans l'après-guerre justement par des groupes de réformateurs placés au croisement des milieux universitaires, syndicaux, chrétiens et travaillistes. Le principal objectif de ces organisations était de plaider pour une ouverture du secteur de l'enseignement supérieur à de nouveaux publics issus de milieux défavorisés, et surtout à de nouveaux savoirs plus proches des besoins du monde du travail. L'idée générale est d'octroyer cette reconnaissance, cette gratification, à la condition que les enseignements prodigués soutiennent une comparaison avec les standards académiques et universitaires, et que leur caractère avancé, tel qu'il l'appelait, ne prête pas à discussion. La traduction française du terme « award » est loin d'être évidente. En tant que verbe, le terme signifie « allouer »,« accorder »,« décerner » ou encore « adjuger ». En tant que nom, c'est les termes de prix, de bourse ou de récompense qui peuvent être mobilisés. Mais dans l'ensemble, ce système de financement repose bien sur l'idée d'une reconnaissance de la qualité académique d'une personne ou d'une activité que ce mot entend. Or, les critères d'éligibilité des Mandatory Awards renvoyaient également à la qualité académique des personnes et de leur activité. Je viens de relire la même phrase. Donc... Si l'inscription dans un établissement universitaire constituait à l'origine le principal critère d'accès à ce droit aux ressources, il a toujours été clair que l'étudiant pouvait en bénéficier lorsqu'il s'inscrivait dans un enseignement supérieur non universitaire, à condition que cet enseignement soit reconnu pour son caractère avancé. Donc si, comme le montrent les hausses concomitantes de financement et d'effectifs d'étudiants jusque dans les années 80, dans un degré moindre dans les années 90, Ce modèle de subventionnement a pu connaître, non sans certaines contradictions, un développement très régulier qui a couru sur plusieurs décennies. C'est également parce qu'il s'appuyait sur un monde universitaire de plus en plus ouvert aux idéaux des réformateurs et aux idéaux libéraux au sens anglo-saxon du terme, et que justement ce monde universitaire bénéficie d'un fort pouvoir dans les structures décisionnelles, et bien que ça puisse répandre. Donc l'UGC, University Grants Committee, a été créé en 1919 et placé sous la responsabilité de membres de la profession académique. Ce UGC était un conseil national en charge des financements, de la coordination et du contrôle du secteur universitaire et a constitué jusqu'aux années 80 l'instance décisionnelle la plus influente de l'enseignement supérieur britannique. Cette structure était un des supports, si ce n'est le support, de la concrétisation des idéaux de démocratisation, de valorisation de l'enseignement supérieur porté par les réformateurs de l'après-guerre et qui a fait l'effectivité du modèle de Loward, qui, on va le voir maintenant, a disparu au profit d'un autre, qui est le student finance. Alors, à la différence du student finance qui socialise le financement des études d'une façon spécifique en mettant en scène une contribution étudiante où le rendement économique du diplôme est le cœur, le régime des mandatory awards pratique et surtout pratiquait donc une autre socialisation des ressources qui reposait sur tout un ensemble de représentations et d'institutions associées à la qualité académique et universitaire tant des étudiants que des établissements. Pour résumer, l'Award reconnaissait la qualité de l'étudiant en tant que tel. Autre système, autre logique, le student finance. Donc, le student finance est aussi un autre mode de subvention de l'ensemble des frais de vie étudiant, mais lui s'appuie sur une toute autre logique. Les fonds de l'Award de l'époque, qui étaient prélevés par la fiscalité et reversés à chaque étudiant, sont devenus des prêts garantis par l'État, à rembourser sur le temps long. La reconnaissance de la qualité universitaire de l'Award a été remplacée par la reconnaissance de la profitabilité future des étudiants en prenant en compte la plus-value future des étudiants. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? L'étudiant contracte un prêt qu'il doit rembourser avec intérêt une fois qu'il est employé, mois après mois. Sous un certain revenu annuel, en dessous de 20 000 livres par exemple, les étudiants ne remboursent pas, le remboursement de l'organisme de crédit est pris en charge par l'État. Mais la série de réformes adoptées depuis 1990 n'a pas remis en cause le financement majoritairement public de l'enseignement supérieur et justement des étudiants. C'est ainsi que depuis le début des années 90, les ressources des établissements sont restées en majeure partie dépendantes des subventions du Conseil national du financement des universités, dont on a parlé tout à l'heure. Ce n'est qu'avec la réforme de 2004 qu'une inflexion significative s'est opérée en faveur des frais d'inscription. Le relèvement du tarif appliqué au niveau undergraduate, l'équivalent de la licence, et son plafonnement à hauteur de 3 000 livres ont fait passer le poids des contributions étudiantes d'un quart à près d'un tiers des ressources globales des établissements. Mais dans l'ensemble, les subventions publiques accordées aux établissements continuaient de croître, elles se sont effectivement doublées à partir de 2006. Mais même avec l'introduction des prêts de scolarité de 2006, une partie des frais sont toujours financés par des autorités publiques. Ces prêts étaient organisés autour d'un remboursement courant sur les 25 années suivant les études. Alors, ces prêts entretiennent un accroissement significatif des dépenses nettes annuelles pour l'université, en tout cas pour les fonds publics. En cela, ils sont au cœur d'un développement significatif depuis 2006 des dépenses publiques annuelles consacrées tant au secteur, aux établissements pour les financer, qu'aux étudiants. Alors, cette évolution montre que dans l'ensemble, les dépenses se sont stabilisées à terme et ont même connu une légère baisse à la fin des années 90, à la fin de l'Award, pour ensuite repartir à la hausse sous l'impulsion successive de la mise en œuvre des prêts pour les frais de vie courante, en 98. C'est le lancement des prêts, pour les prêts que peuvent contracter les étudiants pour payer tant nourriture que logement. Y compris la hausse des subventions publiques aux établissements impulsées par les travaillistes. Et enfin, plus récemment, c'est-à-dire 2008, l'introduction des prêts de scolarité dédiés au paiement des frais d'inscription. Dans l'ensemble, les réformes du student de finance adoptées depuis 1990 sont ainsi accompagnées d'un maintien, voire d'un renforcement de la centralité du gouvernement dans la dynamique décisionnelle et financière des secteurs, ce qui en fait une forme de socialisation objective des ressources qui est comparable aux autres formes dont on va parler, et dont on a déjà parlé, type award, type salaire étudiant. Alors, si le student de finance assure le subventionnement de tous les coûts étudiants, qu'il est remboursé sur le long terme avec du profit, néanmoins, il soulève de violentes contradictions, car ce système postule qu'une majorité d'étudiants réussiront à s'intégrer dans un emploi stable à la sortie, avec un revenu suffisant pour permettre le remboursement. Dans le cas contraire, c'est l'État qui petit à petit devait disposer, qui doit disposer de ses fonds pour rembourser les organismes débiteurs. Et c'est ces remboursements qui marquent en fait la hausse des dépenses de l'État anglais, en tout cas, dans le cas du plan de finances. Voilà, donc on a parcouru assez brièvement ces deux modèles. On va essayer un peu de cerner maintenant les enjeux pour la France, les perspectives politiques pour la France. Et, s'il faut débattre comparativement des différents modèles et les logiques, on les a vues, mais s'il faut qu'on débattre des efficiences économiques et des financements, on le fera après parce que c'est un peu technique et ça ne vaut pas le coup de perdre du temps dessus tout de suite. Quoi. Mmh. Voilà.
Bon, donc comme on l'a détaillé tout à l'heure, le système actuel en France est loin de permettre un accès à tous de qualité à l'enseignement supérieur et est aussi vecteur d'inégalités qu'il reproduit. Il existe une sélection sociale en fonction des moyens et des revenus familiaux. Le système de bourse ne garantit donc pas l'égalité de tous face à l'enseignement. Et il existe de réelles différences de représentation entre les classes populaires, entre les grandes écoles et les universités, mais aussi entre les universités et les filières professionnalisantes. L'état sanitaire des étudiants est aujourd'hui alarmant en France. Faute de temps ou de moyens, nombre d'étudiants ne mangent qu'une fois par jour et certains ne mangent même pas tous les jours. Un étudiant sur cinq renonce à se soigner pour des questions financières et le fait d'attendre que ça passe plutôt que d'aller consulter touche plus de 60%. La fraude pour les transports en commun est également un fait qui se généralise. La double journée cumulant études et emploi entraîne la précarité croissante ainsi que la déqualification. La double journée, donc avec le cumul des études et de l'emploi étudiant, donc la précarité croissante, la déqualification des diplômes, entraîne une vision aussi toujours plus noire de l'avenir pour les étudiants. Tous ces éléments de précarité matérielle provoquent aussi une détresse psychologique des étudiants, qui donc avoue pour ces étudiants que 1 sur 10 a déjà pensé au suicide. Donc, l'objectif ici n'est pas de faire du misérabilisme, mais bien de montrer qu'il existe un problème réel de précarité étudiante et que le système actuel n'est pas en mesure de le résoudre. Le palliatif du salariat étudiant est lui-même pris dans ses contradictions. L'objectif fixé il y a quelques années d'amener 50% d'une classe d'âge au niveau licence est socialement irréalisable quand on sait que le salariat étudiant généralisé touche 3 étudiants sur 4 et qu'un étudiant sur 2 se salarie à plein temps en même temps que ses études. Quand un étudiant sur 2 abandonne ses études pour des raisons financières à cause de son boulot à côté, la solution qu'on propose aux étudiants pour pouvoir étudier est d'abandonner ses études pour pouvoir survivre. Drôle de manière de démocratiser l'enseignement supérieur. Donc, outre le prisme de la précarité, le salarié montre une autre réalité. À l'heure actuelle, les étudiants sont des travailleurs. Quand 3/4 d'entre eux se salarient, on ne peut pas dire que c'est une réalité d'une minorité d'étudiants. Non, les chiffres parlent et dans leur majorité, les étudiants, de par leurs activités extra-universitaires, sont des travailleurs et ancrés directement dans le monde productif. Cette réalité, c'est également celle de plus en plus d'étudiants qui suivent des formes d'études qui conjuguent cours dans l'établissement et travaillent dans l'entreprise à côté. C'est par exemple le cas de l'alternance, dont on a pu déjà un peu parler tout à l'heure, etc., ou des étudiants qui partagent leur temps d'études entre les apprentissages théoriques et leur mise en pratique immédiate. Souvent sous-considérés, ces étudiants travailleurs ne sont pas rémunérés à la hauteur du travail réalisé et souffrent cruellement d'un manque de statut protecteur. La spécificité de l'alternance est aujourd'hui, c'est la seule forme qui, dans son ensemble, propose une activité professionnelle en lien direct avec les études. C'est-à-dire que le métier qui est exercé dans le cadre de l'alternance est en lien avec la formation qui est délivrée dans l'école, dans l'établissement. Ce qui n'est pas le cas des autres formes de salariat et de travail étudiant. Donc cela accentue donc la contradiction avec le salariat étudiant qui pose la pénibilité du double emploi ou de la double journée où à la fois le travail des étudiants n'est pas intégré dans la formation mais en plus il n'a aucun lien avec la formation. Donc pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, un ingénieur nucléaire n'a pas besoin d'apprendre à servir des hamburgers au McDo pour être capable de gérer une centrale. On peut également parler de la généralisation des stages étudiants au niveau licence. Les prérogatives du plan de réussite en licence imposent aujourd'hui aux universités et aux étudiants de faire un stage en troisième année de licence. Cette réalité pousse encore plus d'étudiants dans un rapport productif direct. Les contradictions du stage étudiant sont un mélange entre celles de l'alternance et du salariat. Tout d'abord, comme pour l'alternance, il n'y a pas de statut réel. Et dans le cas où elle existe, la rémunération du travail effectué est misérable. Donc en dessous de 3 mois, il n'y a pas du tout de revenus pour les stages et ça manque cruellement d'encadrement, de même que sur la question de l'alternance. Mais parallèlement à l'université, à qui cette logique de stage est un peu étrangère par justement l'histoire de délivrance un peu académique des savoirs, etc., se trouve aussi souvent face à des difficultés d'aménagement d'emploi du temps. Et problème majeur, les stages qui sont obligatoires ne sont pas forcément encadrés, et quand l'étudiant arrive à trouver un stage, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde, il est fréquent que le stage, comme dans le cas d'un emploi étudiant, n'ait absolument rien à voir avec le contenu de la formation. Les stages café à la fac, c'est une réalité qui existe aussi, où du coup on n'apprend absolument rien et on est là parce qu'il faut le stage quoi, pour avoir la licence. Donc le stage est donc un mélange entre à la fois un emploi étudiant non payé, donc comme le salarié étudiant mais sans revenu derrière, et une alternance réduite au minimum. La liste de ces trois réalités d'étudiants travailleurs montre qu'on ne peut pas déconnecter les étudiants des travailleurs. Aujourd'hui, on force les étudiants à avoir une activité salariale sous différentes formes, mais il faut également revenir sur la place et le rôle de l'enseignement supérieur. Permettre aux étudiants d'acquérir des qualifications nécessaires pour le monde productif. L'enseignement supérieur est aussi un secteur producteur de richesses pour la société. Un étudiant est ainsi, tant par son ancrage actuel dans le monde du travail que par la nature même de son activité, un travailleur. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui de la double journée d'un étudiant salarié. L'étudiant travaille pendant ses études et à côté. D'un point de vue économique, l'étudiant produit de la valeur ajoutée. De par ses études, il augmente ses qualifications et peut ainsi vendre sa force de travail plus cher. Un travailleur qualifié peut ainsi avoir un salaire plus important qu'un travailleur moins formé. De plus, l'étudiant est également un travailleur qualifié pour remplir sa fonction d'étudiant. Pour avoir accès à l'enseignement supérieur, il doit justifier d'un niveau de qualification minimal qui est le baccalauréat ou alors les équivalents qui se sont développés. Ainsi, donc, le mouvement étudiant depuis l'après-guerre est traversé par cette revendication de reconnaissance de l'étudiant en tant que travailleur que je parlais tout à l'heure. Face aux limites du système actuel et la volonté de la classe dominante d'imposer un système similaire au student finance dont on parlait tout à l'heure en Angleterre, donc de mettre en place un système avec sélection à l'entrée de l'université, donc par l'augmentation des frais d'inscription et les prêts étudiants. Nous répondons à l'opposé. Qualification, gratuité et salaire étudiant. C'est la logique globale de financiarisation des études et de privatisation de l'enseignement supérieur qu'il nous faut combattre avec un projet d'ensemble cohérent et ambitieux afin de répondre aux problématiques du milieu. Si l'étudiant, comme nous l'avons montré, est un travailleur aujourd'hui, malheureusement, il ne dispose pas d'un droit complet à un véritable statut. On l'a vu par les activités dans le monde professionnel, mais plus généralement, même s'il existe plusieurs dispositifs de socialisation des coûts, par les solidarités salariales, à l'heure actuelle, donc dispositif de système de santé qui est rattaché à la sécurité sociale ou les aides au logement financées par les cotisations, il n'existe pas de droit à un salaire. Donc actuellement, en France, on a un peu une cohabitation de ces deux systèmes face à la non-aboutissement qu'a pu avoir à l'après-guerre, quoi, le système de santé qui est géré par la sécurité sociale, qui est rattaché directement du coup au régime des travailleurs, les APL, les ALS, qui sont aussi financés par les cotisations sociales, et derrière, tout ce qui reste de la solidarité familiale, avec les bourses, les revenus financiers, on dit l'étudiant dépend de ses parents. Donc on a cette contradiction qui existe, et qui est issue d'un débat qui n'a pas été fini quoi, après la guerre, sur ces questions-là. Donc contrairement aux logiques de fiscalisation qui fait reposer le coût des formations sur les ménages et réparti aux familles, ou contrairement aussi aux logiques de financiarisation qui fait reposer les coûts de formation sur l'investissement personnel et la rentabilité future, la revendication d'un salaire étudiant est basée sur un système de socialisation du salaire, fait reposer les coûts de la formation et de la rémunération étudiante sur les solidarités salariales. C'est-à-dire que c'est les actifs qui cotisent pour les gens qui se forment. La socialisation du salaire donc, apparaît aujourd'hui pour nous, en tout cas, c'est aussi l'un des sujets du débat, comme le meilleur moyen de financer les études et les temps de formation. En créant de nouvelles cotisations sociales, on rattache aussi directement la gestion et le financement de la formation à la production de richesses. Donc l'enseignement supérieur n'est pas déconnecté du monde de production, du monde du travail. Et donc ça affirme aussi, donc, par la solidarité salariale, la réalité qu'un étudiant aujourd'hui est un travailleur et donc son droit au salaire. De plus, comme nous l'avons montré, que l'enseignement supérieur n'est pas déconnecté du monde du travail et que les formations qu'il dispense doivent servir au monde productif, soit pour pouvoir travailler après, en opposition à la volonté de privatisation de l'enseignement supérieur et de soumission au désidératum des entreprises privées, la création d'une caisse spécifique de la sécurité sociale et sa gestion démocratique avec l'ensemble des acteurs permet d'élaborer des réponses et des besoins de la société et non à ceux des entreprises telles qu'on veut aujourd'hui soumettre à l'enseignement supérieur. Voilà, un peu sur les perspectives de salaire étudiant. Du coup, je propose d'ouvrir le débat, je ne sais pas si tu as un truc encore à dire, donc voilà, sur cette introduction. Voilà.